France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. Un soir de printemps sur une plage de l'océan Indien, une étoile de mer s'est échouée, provoquant fascination et émerveillement grâce à ses couleurs rougeoyantes. Ma première étoile de mer. Je n'imaginais pas que 20 ans plus tard, elle serait l'objet, ou plutôt le sujet d'un livre, le symbole des dangers qui pèsent sur l'océan, ces eaux toujours plus chaudes, plus acides, plus polluées, ces eaux dans lesquelles la biodiversité n'a jamais été aussi menacée, ces eaux qui recouvrent plus de 70% de notre planète et dont dépendent nos vies. Alors comment mieux veiller sur cet océan? On attend vos questions au 01 45 24 7000, vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France et vous pouvez également nous laisser un message sur la page Facebook ou sur WhatsApp. Nous sommes le mercredi 9 juillet, vous écoutez France Inter, grand bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter, grand bien vous fasse, Eva Rock.
La mer qui est notre berceau natal va nous réaccueillir, on a besoin d'elle. Il ne faut pas oublier que nous sommes de la mer, nous sommes océan, E-A-U-céan, la même biosphère, nous ne sommes qu'un seul, tout autour de la planète et tous les êtres vivants avec nous, nous avons coévolué. L'océan, on a tendance à le définir par des chiffres, 360 millions de kilomètres carrés, 240 000 espèces, ça trahit l'océan. L'océan, c'est une communauté vivante et le vivant, ça se vit. Il faut aller plonger, il faut aller le vivre cet océan et découvrir les yeux dans les yeux, la raimenta, le cachalot ou l'étoile de mer. Et on comprend soudain qu'on fait partie de la même communauté, qu'on est lié à eux, que nous sommes interdépendants.
La voix de l'océanographe et plongeur François Sarano, invité le 13 mai dernier au micro de Léa Salamé sur France Inter. Une voix qui porte et qui résume parfaitement le sommaire de notre émission du jour en présence de deux invités qui défendent elles aussi l'océan avec force et conviction. Bonjour Marine Calmé.
Bonjour.
Juriste, vous êtes présidente de l'association Wild Legal, je le prononce correctement.
Wild Legal.
Wild Legal, c'est peut-être mieux hein, avec mon anglais pas très bon. Wild Legal et porte-parole du collectif Hors de Question. Vous venez de publier Justice pour l'étoile de mer vers la reconnaissance des droits de l'océan aux éditions Actes Sud, ouvrage co-signé avec François Sarano que l'on vient d'entendre. À vos côtés, une autrice. Bonjour Simonetta Greggio.
Bonjour.
Je ne sais pas comment je vais prononcer votre nom de famille tout à l'heure.
Simonetta Greggio.
Greggio. Votre dernier livre, Simonetta, un été en mer, voyage en Pélagos, sanctuaire de la Méditerranée, est aussi paru chez Actes Sud dans cette formidable collection Un monde sauvage. Et dans un instant, nous serons en ligne ainsi avec Marita Barli, navigatrice, autrice de Cavalcade Océane, victoire au tour du monde sans satellite à bord du Pendwick 6, c'est aux éditions Artaud. Marine Calmé, quand on vous a appelé avec Anna Massardier qui prépare au quotidien Grand Bien vous fasse, le titre initial de l'émission était « Comment mieux veiller sur nos océans ?» et vous nous avez corrigé, vous nous avez dit non, « Comment mieux veiller sur l'océan ?» Pourquoi vous avez tenu à cette distinction sémantique?
Avec François, j'ai appris qu'il n'y avait donc qu'un seul océan et que toutes les frontières que nous avons construites sont véritablement politiques. Mais au sens d'une grande communauté vivante, justement, il s'avère plus logique de parler de l'océan. Un seul écosystème qui rejoint justement toutes les terres et toutes les mers en vérité et qui nous unit.
Je le disais, vous êtes juriste, président d'une association. De quoi s'agit-il exactement et quand est-ce que vous avez créé cette association?
Alors, Wild Legal est une association 100% dédiée à la reconnaissance des droits de la nature, qui est un mouvement mondial et qui aujourd'hui vise à reconnaître justement que l'océan a des droits, la nature a des droits, tous les êtres qui composent cette communauté vivante sont des sujets et non pas des ressources, des biens, des marchandises comme nous le considérons aujourd'hui dans notre droit. Et c'est aujourd'hui une association qui s'emploie à faire ça en France et reliée à toutes les autres ONG dans le monde qui font le même travail de retisser des liens justement avec les vivants.
Donc vous avez choisi le droit, alors on va parler de l'océan typiquement aujourd'hui, mais vous avez choisi le droit pour défendre l'océan, c'est-à-dire pour défendre tous les écosystèmes.
Tout à fait, parce que en fait, aujourd'hui, on le voit, il y a un effondrement qui est global et des normes qui ne sont plus en lien avec ce que nous vivons, ce que nous devrions mettre en place, comment nous devrions œuvrer juridiquement, mais donc avant tout politiquement, pour justement construire un avenir commun, protéger ces liens d'interdépendance. Et donc, notre droit étant tellement en décalage aujourd'hui, il s'agit vraiment de réutiliser ces outils qui sont à notre portée et qui sont aussi en lien très fortement avec la question démocratique. Et malheureusement, cet effondrement juridique, il est aussi lié à des institutions trop faibles qui ne sont plus en capacité de porter la voix des citoyennes et des citoyens qui aiment l'océan et qui veulent vivre avec l'océan.
Et si on en revient à notre étoile de mer, en l'occurrence, est-ce que ça veut dire, et pardon pour la question forcément provocatrice, hein, est-ce que ça signifie qu'il faut accorder à une étoile de mer les mêmes droits que ceux accordés à un être humain ?
C'est exactement sur ça, en fait, et pour cette raison-là qu'on a choisi de l'appeler Justice pour l'étoile de mer avec François, parce qu'il m'a posé aussi cette question, jusqu'où on va ? Et en fait, la question qu'il faut se poser, c'est aujourd'hui d'où on vient avec notre droit, c'est-à-dire un droit qui a profondément invisibilisé l'étoile de mer. Elle n'existe pas, elle est détruite dans l'ignorance la plus absolue, comme énormément d'autres êtres vivants dans l'océan. Et aujourd'hui, il s'agit non pas de reconnaître les mêmes droits à l'étoile de mer qu'aux êtres humains, mais de lui faire de la place, de la reconnaître déjà en tant qu'être, en tant que vivant, et de lui reconnaître des droits dont elle a besoin pour exister et pour protéger cette très grande diversité absolument nécessaire qui fonde notre interdépendance. C'est ça dont il s'agit.
On va revenir sur ce thème d'interdépendance qui est à la fois dans vos deux livres et qui est extrêmement important. On sent bien que c'est presque la cheville. C'est autour de tout ça que se construisent vos récits. Simonetta Greggio, vous avez passé un été en mer, comme l'indique le titre de votre livre, en Méditerranée, dans ce sanctuaire de Pélagos qui s'étend alors, du nord de la Sardaigne, ça va jusqu'à hier côté ouest et l'île d'Elbe côté est, et ça, évidemment ça englobe les côtes de la Corse. Comment vous comprenez ce terme de sanctuaire ?
Comme quelque chose qu'il faudrait juste redéfinir. Qu'est-ce que c'est qu'un sanctuaire ? J'écoutais le livre de Marine et de François est resté dans mon sac pendant tout le printemps parce que c'était comme une sorte de talisman pour moi. Et je pensais à cette idée d'interdépendance dont elle vient de parler. Et je pense au mot de Margherita Hack, pardon, qui était une astrophysicienne italienne formidable, qui disait en fait, il faut tout repenser. C'est la vision du monde qu'il faut repenser. Notre vision du monde. Quand on voit des étoiles, ce qui se passe, la Terre n'est qu'une toute petite chose au milieu de quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est que cet homme qui se met juste au centre de quelque chose qui est aussi petit, minuscule ? Donc, quand on parle de droit pour la mer, des droits pour les cétacés, de droits pour les poissons, on parle aussi de notre droit à nous. Où est-ce qu'on se place, nous, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que créature humaine, et où est-ce qu'on met les non-humains, les créatures non-humaines ? Donc voilà, les droits de la mer, les droits des poissons, les droits des animaux que nous mangeons tous les jours sont au centre de mes préoccupations et la mer les a encore plus concentrés. Le sanctuaire pour moi, qui est quelque chose qui doit être sacralisé, c'est-à-dire que la vie doit être sacralisée. Moi, comme vous, je me demande toujours avec quoi on parle. Est-ce qu'on parle avec les chiffres ou est-ce qu'on parle avec notre cœur ? J'ai des amis autour de moi qui sont des vraies femmes et hommes de science, qui sont de plus en plus, qui passent au tamis de leur émotion, ce qu'ils savent. Et c'est ça qu'il faut dire aux gens, parce qu'il y a une sorte d'hyper-normalisation, c'est-à-dire qu'on entend tout, et n'importe quoi, les deepfakes, les incendies, etc. Et tout est pareil. Et après, on scrolle et on voit la nouvelle paire de chaussures, je ne sais pas quoi. Bon, c'est ça qui est terrible. C'est que tout est pareil et on ne sait plus faire la différence. On a notre cœur qui s'est complètement refermé.
Oui, d'où l'idée de sanctuariser. C'est ça. D'ailleurs, avec votre co-auteur Olivier Weber, vous utilisez un mot magnifique que je trouve pour qualifier cette Méditerranée. Vous parlez de miroir. C'est un terme extrêmement important pour comprendre votre démarche. Parce que qu'est-ce que vous y voyez dans ce miroir ?
La mer, c'est nous. Hier, j'écoutais ce qui s'est passé avec la loi du plomb. On dit la Terre, on va polluer la Terre. Mais ce n'est pas que la Terre, tout ce qui est en terre finit en mer. Donc tout ce qu'on pollue sur la terre, tout ce qu'on empoisonne, finit dans la mer. Ça veut dire que, moi je répète toujours, quand j'étais petite fille, les étoiles de mer, les hippocampes, c'était là, c'était pour nous, on nageait avec ces créatures. Maintenant, quand je vois mes petits-neveux et nièces, ils ne connaissent pas ça, ils n'ont jamais vu une étoile de mer, ils n'ont jamais vu un hippocampe. On a empoisonné, en empoisonnant la terre, l'eau, on empoisonne tout ce qui va en mer et dans les océans. Dans l'océan, pardon.
Oui, dans l'océan. Marine Calmet, juste pour qu'on comprenne cette histoire, l'urgence qu'il y a à défendre nos océans et à mieux l'océan et à mieux le défendre. On parle d'état alarmant. Si, alors, pardon pour les chiffres qu'on va donner, mais je voudrais qu'on en cite quelques-uns, ou en tout cas des problématiques qui sont liées à notre conversation de ce matin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ce terme de état alarmant de l'océan?
Eh bien, que ce soit justement sur, on a beaucoup parlé dans le livre de la présence et puis du nombre de vivants dans l'océan, parce que on parle dans les chiffres de la pêche d'effondrement des stocks.
Ouais.
Encore une manière de gestionnaire de regarder l'océan. On parle d'effondrement des stocks de poissons, mais en fait c'est l'ensemble de la chaîne du vivant qui est en train de s'effondrer dans l'océan. Les conditions, notamment en Méditerranée, la chaleur de l'eau et donc
qui augmente fortement.
Qui augmente, c'est du jamais vu ce qu'on est en train de vivre en Méditerranée. Et donc du coup, c'est tous ces phénomènes combinés qui aujourd'hui exercent des pressions démesurées sur l'océan. Et malheureusement, justement, il faut une prise de conscience parce que cette crise-là, elle nous affecte. Elle n'est pas en vérité cachée, elle ne se passe pas sous le miroir de l'eau. Elle remonte jusqu'à nous et elle fait en sorte, elle va faire, malheureusement, elle va créer ce qu'on a appelé, ce qu'on a nommé dans le livre l'involution, c'est-à-dire que nous sommes directement menacés nous-mêmes dans notre existence, mais aussi dans notre dignité par la crise que traverse l'océan.
Un jour, un enfant qui découvrait la mer m'a demandé « L'océan, c'est quoi l'océan ?»
Grand bien vous fasse, Eva Rock.
Extrait du film Océan de Jacques Perrin. Comment mieux veiller sur l'océan? C'est le thème de notre émission en présence de l'autrice Simonetta Grégio et la juriste Marine Calmet. Je vous propose de retrouver tout de suite Marie Tabarly. Bonjour Marie. En espérant que vous nous entendiez bien. On va peut-être la retrouver dans quelques instants. On va continuer notre conversation. Marine Calmet, on parlait hors micro de ce grand événement qui a eu lieu à Nice il y a quelques semaines.
Oui.
Conférence des Nations Unies sur l'océan. C'est un événement que vous avez suivi. Simonetta aussi, oui, je crois que vous étiez présente.
Sûr.
Que peut-on retenir de cette conférence? Et je crains de connaître la réponse.
Malheureusement, c'est business as usual, c'est-à-dire que la déclaration de Nice reflète la mentalité actuelle qu'on retrouve chez beaucoup de gouvernements, c'est-à-dire il s'agirait de changer un petit peu les manières de faire du reporting, avoir une meilleure gouvernance. Alors on a entendu beaucoup, il faut inclure les peuples autochtones, il faut inclure les femmes, il faut inclure les jeunes. En vérité, autour de la table, c'était quand même globalement toujours les mêmes personnes représentées. Et pas de changement de cap. Pas de changement vraiment de vision. Alors même que justement la société civile était ultra présente, ultra mobilisée et réclamait, et notamment nous y étions pour réclamer la reconnaissance et l'inscription des droits de l'océan dans le texte. Et pourquoi? Tout simplement parce que ça, c'est un vrai changement de cap, c'est un vrai changement de regard et ça sort de cette logique de gestionnaire, de bon père de famille et de justement de retisser ce lien d'altérité avec l'océan, de ne pas le regarder comme un ensemble de stocks de poissons à gérer, mais de dire il y a dans l'océan des êtres vivants avec lesquels nous formons une communauté et ce sont leurs droits que nous devons défendre et notre droit, ça veut dire aussi réussir à bâtir des systèmes politiques dans lesquels nous cohabitons avec les êtres marins, et nous cessons de les utiliser dans un but strictement marchand, ouais, et de nous intéresser à eux que quand ils sont financièrement intéressants.
Et dans votre discours, il n'est pas question de dire il ne faut pas pêcher, il faut arrêter de pêcher, il faut empêcher les pêcheurs de vivre de du commerce et de leur activité. Ce n'est pas du tout votre discours.
Hein. Non, et avec François Sarano, avec Longitude, nous avons vraiment souligné l'importance de trouver justement des modèles de pêche qui soient compatibles avec le vivant. Et d'ailleurs, d'autres pays dans lesquels les droits de la nature sont reconnus nous montrent la voie. En Équateur, par exemple, où les droits de la nature sont reconnus depuis 2008.
Oui, on va y revenir, parce que l'exemple de l'Équateur, c'est vraiment, c'est un exemple.
En tout cas, dans votre combat, en termes de pêche, aussi. Oui.
On va y revenir, si vous me le permettez.
Bien sûr.
A retrouvé Marie Tabarly.
Ah.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, navigatrice, amoureuse de la nature, autrice de Cavalcade, je vais y arriver, Océane aux éditions Artaud. Marie Tabarly, vous n'êtes pas sur les flots, mais je sais que vous avez une sensibilité particulière à la nature. Est-ce que c'est depuis que vous êtes enfant d'ailleurs que vous avez cette sensibilité-là?
Ah ouais, ah oui, oui, tout le temps. Moi, j'ai eu la chance de grandir en campagne, dans le Finistère, et puis de grandir dans la forêt et en même temps d'être sur la mer et bah, de pouvoir vite comprendre qu'on fait partie d'un tout en fait, que tout tout est relié, tout est connecté, que ce soit l'air dans nos poumons, l'océan, la forêt, enfin il y a une interconnexion et nous on fait juste partie de ce tout. En fait.
Bien sûr, bien sûr. Marie, vous qui aimez tant la nature, est-ce que l'océan vous offre quelque chose de plus, quelque chose que vous ne retrouvez nulle part ailleurs?
Non, non, pas plus que ça, parce que je retrouve, à part la paix, mais, et encore même pas, parce que celle-là, je l'ai aussi en forêt, je l'ai en montagne, je l'ai partout, en fait. La nature est la même, enfin, elle a la même puissance et la même splendeur partout. Le seul truc que je retrouve maintenant sur l'océan, c'est que je retrouve un rythme de vie normal, adapté à nos cerveaux, parce que je trouve que maintenant le rythme que l'on vit et la surenchère d'informations et tout ce qu'on a maintenant à terre, le rythme de vie est beaucoup trop rapide en fait pour nos petits cerveaux d'humains. Ouais.
Et quand vous êtes sur le bateau et là vous retrouvez, on a l'impression enfin d'un temps normal quoi, c'est ça, un temps à l'échelle humaine.
Bah, on est débordé, on a plein de choses à faire. J'avais emporté 18 livres sur le tour du monde, j'ai dû en lire 2 ou 3 à peine. On a une pression, on a du stress, on a de la charge mentale, voilà, on a tout ça, mais on est beaucoup moins sollicité par des phénomènes extérieurs et on n'a pas à porter le poids, la pression de la tristesse du monde en ce moment qui est bien trop grande en fait.
Oui, dont vous parlez beaucoup au début de votre livre. Hein. Vous dites le retour sur Terre est très compliqué. D'ailleurs, je me suis posé la question, comment s'est déroulée votre, entre guillemets, votre réadaptation à ce rythme de vie qui change?
Très longue. Mon corps est rentré de Tour du Monde en avril 2024. Ma tête est rentrée en mars 2025. Hein. J'ai mis... 11 mois, ouais, un livre et un burn-out pour rentrer. Hein, c'est...
Ouais. J'avais une petite question, elle va peut-être vous paraître un peu anecdotique, mais parce que je vous imaginais sur votre bateau, là, pendant 8 mois, avec votre équipage. Quel est votre endroit préféré sur le bateau, Marita Barly?
Ça dépend des moments. Évidemment, le carré est très agréable parce qu'on voit toute une petite communauté s'harmoniser, vivre... voilà, quand je suis à ma table à cartes, je peux avoir un petit œil sur tout le monde. En même temps, aller se percher à l'étrave et voir tout le bateau, c'est hyper agréable en fonction des conditions, quand c'est pas trop, quand il n'y a pas trop de vagues. Puis dès que je veux m'isoler un peu, j'ai un petit coin dans la soute à voile où normalement on ne boit pas trop. On a tous notre petite planque comme ça.
Depuis 10 heures, on évoque avec Simonetta Gredio et Marine Calmé l'absolue nécessité de veiller sur l'océan. Est-ce qu'au cours de ces 8 mois de mer, vous avez observé des comportements humains que je qualifierais de contraire au droit de l'océan?
De contraire, même de dramatique. Je me souviendrai toujours du moment où, une fois qu'on a passé les Malouines et qu'on est remonté le long de l'Amérique latine en direction de Punta del Este en Uruguay, je vois un énorme halo lumineux. Je me dis, tiens, la Lune aujourd'hui, elle est forte. Et en fait, il y a un de mes gars qui me dit, non mais attends Marie, la Lune, elle est derrière toi, quoi. Et en fait, il y avait des énormes halos, il y en avait deux gros hotspots comme ça, et en se rapprochant, on entend de plus en plus à la VHF des personnes chinoises qui parlent, et là on se rend compte que c'est des bateaux qui sont, mais par centaines, agglutinés les uns aux autres, qui mettent les spots à fond en pleine nuit pour attirer les calamars, et ça on sait que c'est
catastrophique.
Ouais. Et puis on voit des hotspots, on en a vu jusqu'à 3 en même temps. Hein. Il y en a vraiment beaucoup. Je crois qu'il y a Thomas Pesquet qui a fait une photo il n'y a pas longtemps de ça, du côté de la Thaïlande aussi, de l'espace. Une photo avec plein de lumières vertes et on voit sous tous ces hotspots. Et il y en a beaucoup. Et en plus, même humainement, c'est dramatique, parce que ce sont des personnes qui restent 1 an, 2 ans, voire plus, sans toucher terre, qui en prend les passeports. Enfin, c'est de l'esclavage moderne sur des bateaux qui sont dans un état de décomposition lamentable. Et c'est qu'une petite trace de ce qu'on est capable de faire. Ouais.
Ouais. Marie, je voudrais qu'on finisse sur une note poétique, ou en tout cas plus positive. Si vous fermez les yeux un instant, mais vraiment ne réfléchissez pas, la première image qui vous vient quand on parle de l'océan, c'est quoi?
Oh, moi, j'aime vous le voir dans les grandes dépressions, parce que c'est magnifique, c'est terrifiant, mais c'est à la fois magnifique. On se rencontre vraiment quand on a la chance de pouvoir aller dans les mers du Sud ou de pouvoir avoir des bateaux suffisamment bien préparés pour affronter des creux de 8, 9, 10, 11 mètres, on voit l'océan et la nature d'une façon que très très peu de gens peuvent voir. Et c'est à la fois, c'est aussi terrifiant que magnifique, quoi. Ça a des odeurs, des lumières, Puis c'est là où on se rend compte que tous les animaux marins sont hyper bien câblés, parce qu'il y en a en général pas beaucoup qui traînent là à ce moment-là. Ils sont bien barrés, ils sont allés ailleurs. Il y en a quelques-uns téméraires. On avait des dauphins dans une grosse dépression juste avant le Cap Horn qui sautaient de vague en vague. C'est assez drôle.
Ils venaient vous narguer, en fait, c'est ça? Ils venaient vous narguer
Mais il y en a un qui a vraiment fait le malin, parce qu'il a fait un super beau saut, et l'océan s'est retiré sous lui. On a vu l'œil, du merde. C'est très, très drôle. Mais on se rend compte que on est en train de... Même nous, sur l'eau, on se rend compte que tout est en train de dérégler. Avant, c'était réglé comme du papier à musique. Maintenant, on voit bien que les phénomènes sont d'une violence et d'une rapidité qu'on n'avait pas rencontré avant.
On va continuer justement à en parler avec nos invités. On vous remercie infiniment, Marie Tabarly, d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions Artaud, Cavalcade Océane, victoire autour du monde sans satellite à bord du Pendwick 6. Merci infiniment, Marie, d'avoir été avec nous. Simonetta Greggio et Marine Calmet, moi j'aimerais qu'on poursuive un peu cette expérience sensible justement que nous offre l'océan. Marine Calmet, quelle est l'odeur de l'océan pour vous?
En fait,
ça ressemble à quoi?
En fait, plus qu'une odeur, moi, c'est surtout les sons de l'océan qui me parlent particulièrement, parce que j'ai appris à connaître l'océan en plongée. Et donc, ce qui marque quand on rentre finalement dans l'océan, c'est que c'est ces sons, souvent au bord de la plage, du sable, donc des petits cliquetis comme ça. Et puis, plus on se rapproche des rochers, plus on entend les poissons qui grattent avec leurs dents et qui cherchent à manger. Et en fait, c'est là que s'éveille beaucoup de sensibilité, je trouve, à ces multiples, enfin toute cette ambiance en fait de sons qui vient nous rappeler que tout autour de nous, tous ces êtres vivants composent. Et donc là, c'est plutôt par ce biais-là, moi, que je me rattache à l'océan.
Simonetta, moi, je voulais vous demander Louis, mais comme Marine a répondu, essayez avec l'odeur.
Alors, pour moi, c'est une odeur, c'est l'odeur du cachalot. La première fois que j'ai vu un cachalot, j'ai eu évidemment cette espèce de choc visuel, parce que c'est une montagne et c'est Moby Dick et ça parle à notre cœur. Ça m'a émue à tel point que je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à plat ventre sur le bateau et je me suis mise à pleurer. Le cachalot était tout près et l'odeur, parce qu'en plus il a fait caca, ce con, et donc ça sentait le calamar pourri. Enfin, c'était juste épouvantable, mais c'était juste génial. Enfin, c'était, oui, c'est organique, quoi. Je sais pas, peut-être que Marine pourra le dire, mais avec le caca du cachalot, je sais pas combien de poissons vont vivre, survivre, tout ce qui va se passer avec ça. C'est juste l'organique de la mer et quelque chose qu'il faut voir. On est habitué à ces espèces de plages complètement saint-tropéziennes,
oui,
propres. Oh là là, attention, il y a une posidonie, je sais pas quoi. Non, en fait, la mer, ça sent fort. La mer, c'est fort, c'est viscéral. Quand vous plongez dans la mer, vous êtes vraiment, enfin, excusez-moi de le dire, mais vraiment dans le ventre de votre maman, donc il faut y aller. Il y a quelque chose de prénatal qui va forcément s'accrocher à tous vos sens.
Oui, sans faire de psychologie de comptoir, mais voilà. Le mot mer, on sent que ça nous raccroche aussi à qu'il y a un lien vital, quelque part, entre cet océan et nous. C'est pas anodin, ce terme de mer.
Mais vous savez, moi, j'avais ma grand-mère qui m'avait dit une fois, quand tu rêves, regarde l'eau de tes rêves. Parce que l'eau de tes rêves, c'est toi. C'est profondément ce qui se passe dans ton cœur. Si l'eau de ton rêve est trouble, ça veut dire que tu n'es pas en accord avec toi. Et je pense toujours à elle quand je pense à cette mère que je vois en moi, dans mes rêves. Parce que, je vais vous dire, en fait, on a un petit groupe de filles qui s'appelle les Vives, et on se raconte nos rêves de la mer. On a fait une rencontre des troisième poulpe la semaine dernière à Porquerolles, et puis l'eau était trop chaude d'ailleurs, beaucoup trop chaude, et on s'est dit qu'on allait vraiment sonder au fond de nous tout ce qui se passe, pour comprendre aussi ce que nos sens nous disent, et nos cœurs, nos esprits. Il n'y a pas que notre mental, il n'y a pas que Nelly Ponce, qui fait partie de ce groupe, est complètement...
Elle recevra d'ailleurs dans quelques jours.
Et voilà, et son livre est juste génial, parce qu'elle arrive à faire passer toutes ses émotions dans sa science. Et c'est ça qui est génial. Et donc, voilà, on se dit qu'on allait prendre ses rêves et s'en parler pour s'emparer de la mer.
La jeune mère remonte à la surface, rassasiée. Son baleineau se précipite vers elle. Et comme tous les bébés mammifères, il n'a qu'une chose en tête. Téter. C'est un spectacle magique, rarement filmé. Le cachalot a relevé l'extraordinaire défi de la vie dans les océans. Champion toute catégorie de l'apnée, il ne craint ni l'extrême pression, ni le froid des abysses. Un jour, le baleineau plongera lui aussi vers les grands fonds.
Extrait d'un documentaire animalier diffusé cette année sur France 2, qui est toujours disponible sur France.tv, narré par Virginie Efira, mammifère conquérant de l'extrême, avec des images de cette tétée d'un bébé cachalot qui sont absolument stupéfiantes. On évoque les richesses de notre océan avec l'autrice Simonetta Greggio et la juriste Marine Calmé. Simonetta, vous racontez beaucoup d'histoires dans ce livre. Moi, il y en a deux qui m'ont marqué. La première, c'est une traversée à bord d'un ferry. Ce ferry, il peut croiser à tout moment une baleine. On est toujours dans le sanctuaire Belagos. Et l'équipage ne s'inquiète pas plus que ça, du fait qu'on peut croiser un cétacé sur cette route. Ils vous disent même que la baleine, elle va plus vite que le bateau, donc elle sera capable de l'éviter. On a l'impression qu'on est dans un dessin animé et que la baleine va pouvoir faire ce qu'elle veut en arrivant face à ce ferry. Or, on sait que les collisions en Méditerranée sont la première cause de mortalité des cétacés.
Oui, et puis il y a maintenant un dispositif qui s'appelle RECEP, qui normalement est fait justement pour qu'on s'envoie les signaux des animaux qu'on peut, des cétacés qu'on peut trouver sur sa route. Et moi, j'ai eu l'impression, j'ai fait deux fois l'aller-retour, j'ai eu l'impression qu'en fait, il n'y a pas de sensibilisation sur les bateaux à ce sujet. C'est comme si c'était, vous êtes dans un avion... c'est pas grave, c'est vous qui traversez. Vous êtes à la mer, c'est vous qui traversez. C'est vous, toujours, en tant qu'être humain, celui qui décide l'impact qu'il va avoir sur les autres êtres non humains. Donc, c'est ça qui est totalement disproportionné. C'est-à-dire que tous ce sont des jeunes gens, les équipages, ils adorent la mer, mais ils ne connaissent pas la mer. Mmh. Il y en a même certains qui ne savent pas nager. Mais ils passent leur vie en mer. Donc, quelle est cette mer dans laquelle... on navigue. Pourquoi on ne connaît pas la mer? Pourquoi on ne connaît pas la terre? Pourquoi on connaît si peu? Moi, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a une fracture, en fait, entre ceux comme nous, qui sommes là en train de parler, de sensibiliser, de dire. Et j'ai l'impression qu'on parle à des personnes comme nous. Et c'est comme s'il y avait plein de gens qui n'écoutaient pas, et notamment nos gouvernants, et notamment, c'est ce que disait Marine à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une sorte vraiment de fracture qui se fait entre le vivant civil et les vivants non suivi, enfin, je dirais, de gouvernance, oui. C'est lui qui décide pour nous. Mais nous, qui sommes là, pourquoi nous ne décidons pas? Pourquoi nous n'avons pas voix au chapitre? Et c'est la même chose sur les bateaux. Pourquoi on ne demande pas sur les ferries? Pourquoi on ne demande pas à tous ces gens qui font tous les jours en Corse, en Sardaigne, etc., s'ils veulent voir la mer, s'ils veulent comprendre la mer, au lieu de manger toute la journée des choses de saloperie, parce que c'est ça, oui. Sur le bateau, et au lieu finalement de passer ce temps d'amusement. Mais ce n'est pas un amusement, la mer. Elle n'est pas là pour nous amuser, la mer. Donc voilà, il y a vraiment une autre manière d'envisager les choses. Ouais. Vous voyez ?
Et vous racontez une autre scène. Alors, vous la racontez avec humour, mais c'est une autre expérience que vous vivez. Vous êtes avec un capitaine de bateau qui pêche des anchois. Et malheureusement, dans ses filets, il ne ramasse pas que des anchois. Il ramasse aussi ce que vous appelez des mola-mola.
Ce sont des poissons lunes.
Et vous décidez, avec une amie qui est aussi dans une association de défense.
Oui, Explore et Préserve, Anne-Sophie Timendi, avec qui je travaille.
Vous remettez à l'eau. Ces bébés mola-mola.
Heureusement, c'était des juvéniles, parce que si ça avait été des gros, on n'aurait pas pu les remettre. Ils font 100 kilos, enfin, on n'aurait pas pu. Et là, on avait des juvéniles, on avait une trentaine de juvéniles qui étaient pris dans le filet tournant-coulissant. Donc, c'est des lamparons. Hein. C'est là, je vous raconte un peu comment ça se passe. C'est des bateaux très gros. La nuit, on met la lampe pour attirer les poissons. Et en fait, le grand filet ramasse tout. Mais peut ramasser aussi des petits dauphins ou d'autres espèces animales, pas que forcément, c'est pas ciblé, hein, l'anchois. Donc là, avec Anne, on voit luire, vous savez, quand on remonte le filet, on voit luire des grosses formes argentées, on se dit, oh Seigneur, c'est des dauphins. Dieu merci, ça n'était pas ça, c'était des mola-mola, parce que sinon, je sais pas comment on aurait fait. Et on a demandé au capitaine, l'autorisation, parce qu'eux, ils ont du boulot, c'est leur boulot, et ils ne sont pas payés, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ils gagnent très peu leur vie, ils sont vraiment... Enfin, ils passent 6 mois sur le bateau, c'est des gens très pauvres qui viennent de Sicile, etc. On lui a demandé l'autorisation de remettre ces mola-mola. Vous avez dans les mains ces poissons qui sont comme du bois, qui sont sublimes, qui vous regardent avec ses yeux complètement... Enfin, qui demandent... Tout le monde demande... Tout le monde demande d'être sauvé. Eux, ils demandaient d'être sauvés. On les a remis à l'eau, ils ont repris la mer. Mais je me dis que toutes les nuits, c'est ça. Toutes les nuits, on a cette...
Mais moi, j'ai été choquée, pour pas dire autre chose, parce que vous avez entendu cette phrase d'une violence incroyable de la part du capitaine, qui vous regarde un peu bizarrement quand vous rejetez ces poissons lune à l'eau et qui vous dit bah, les dauphins aussi se prennent dans les filets, pareil, ça bouffe tout, ça chie partout dans la mer, ça sert à rien, ces bestioles, à rien du tout, je vous le dis.
C'est
moi,
des concurrents.
S'ils crèvent dans les filets, c'est tant pis, je ne vais pas pleurer.
Oui, oui, c'est
Mais
des concurrents.
Quand vous entendez ça, comment vous réagissez?
Ben, nous, avec Anne, on avait mis notre logo Explore et Préserve à l'envers,
oui,
hein, parce qu'on était
planqué.
Il ne s'agit pas d'être deux écolos, en plus femmes, parce que sur les bateaux, c'est pas très bien vu, sur le bateau de pêche, qui allaient leur fiche en l'air, finalement, leur produit de la nuit. Donc, moi, j'ai un peu fermé mon grand bec parce que j'ai l'habitude de beaucoup m'exprimer. Et je l'ai écouté. Et c'est vrai que vous avez 12 personnes sur ce bateau. Elles sont là pendant 6 mois. Elles vivent toutes ensemble. Ils dorment ensemble. Ils mangent ensemble sur ce bateau. Le capitaine est là pour leur donner un peu quelque chose. Bon, ils sont payés au profit, hein, donc au pourcentage. Mais ils ont une vie de chien, quoi. Ouais. Donc, il ne s'agit pas d'aller leur dire qu'est-ce que vous faites, de
Bien
se mettre
sûr.
Sur ces grands chevaux, tout ça. C'est vraiment, comme disait Marine à l'instant, c'est une harmonie à trouver entre ce qui existe et ce qui peut exister.
Ce fameux terme d'interdépendance.
Voilà.
Marine Calmé, quand vous nous parliez tout à l'heure, juste avant qu'on ait Marie Taberly au téléphone, de l'exemple de l'Équateur.
Oui.
L'Équateur, par référendum, ils ont décidé d'inscrire les droits de la nature dans la Constitution.
Oui.
Et concrètement, juridiquement, ça se traduit comment finalement ?
Donc juridiquement, il y a un article, l'article 71, qui prévoit que la nature, la terre-mère, a le droit d'exister, le droit au renouvellement de ses capacités physiques, ou le droit à la santé. Et ça s'est traduit dans plusieurs lois très intéressantes. Une loi qui reconnaît les droits de l'écosystème des Galapagos, en particulier, qui est un écosystème extraordinaire au niveau marin. Cet écosystème et les populations humaines et autres qu'humaines qui y habitent ont droit, du fait de la loi, au bien-être. Et... En fait, l'Équateur a poursuivi cette route-là ensuite et a instauré dans une loi sur la pêche une interdiction pure et simple des pratiques de pêche intensive dans les 8 premiers milles marins, les 15 kilomètres qui séparent le rivage de l'océan. Et en fait, ça a conduit évidemment à l'interdiction de la pratique du chalutage, notamment.
D'accord.
Et de toutes les pratiques qui sont en fait incompatibles avec les droits des écosystèmes marins, mais... Aussi, et ça, le juge est venu le confirmer, puisque cette loi a été attaquée par le lobby de la pêche, le juge constitutionnel équatorien, grâce justement à l'inscription des droits de l'océan dans la Constitution, a dit « Cette interdiction des pratiques de pêche incompatible avec les droits du vivant est nécessaire parce qu'il protège non seulement la vie, là où se perpétue la vie, et donc dans les premiers milles des côtes, là où les poissons se reproduisent, là où la vie se multiplie, mais c'est aussi une absolue nécessité pour protéger les droits humains et les conditions d'existence des petits pêcheurs locaux qui ont besoin justement...
Il a argumenté son avis, d'accord.
Bien sûr, ouais. C'est une mesure nécessaire parce que c'est indispensable pour protéger le système de pêche traditionnelle et populaire, et il a bien insisté là-dessus, et populaire, c'est-à-dire du peuple équatorien. Et donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'interdiction du chalut en France, c'est un horizon indépassable. On n'y arrivera jamais, les lobbies sont trop forts,
etc. On a beaucoup parlé au moment du congrès de Nice. Hein,
C'était vraiment sous le feu des caméras, cette question de est-ce qu'on va au moins réussir, le truc dingue, à interdire le chalutage dans des aires marines protégées.
Ouais.
Non, mais on en est là. C'est-à-dire que l'évidence n'est même plus une évidence. On en vient à douter de la possibilité de protéger l'océan dans des zones protégées.
Mais alors,
sanctuaire, c'est incroyable.
Oui.
Et donc c'est là le nœud du problème. C'est un droit qui est en incapacité de protéger la vie et de protéger d'une certaine forme aussi nos esprits, dans le sens où on en vient à douter que certaines choses qui sont pourtant du bon sens et de l'évidence soient encore possibles et atteignables.
Mais alors, Marine Calmé, quand on parle de justice, on parle aussi donc de condamnation, de réparation même. Alain nous demande, est-ce qu'on pourrait, d'un point de vue juridique, porter plainte porter plainte contre ces gens qui polluent nos océans?
Évidemment, aujourd'hui, il y a des normes en matière de pollution des océans. On peut poursuivre, par exemple, et ça a été le cas, la grande affaire de l'Erika,
oui.
Le naufrage de l'Erika. C'est d'ailleurs ce qui a permis aux juges de reconnaître pour la première fois le préjudice écologique. L'affaire Erika, c'est extraordinaire parce que c'est une jurisprudence qui a permis de reconnaître que l'océan peut être une victime à part entière. C'est-à-dire que les humains ne sont pas les seules victimes de la destruction du vivant. Le vivant, pour lui-même et dans ses propres intérêts, est lésé lorsque il y a une marée noire, une pollution en mer. Mais le problème, dans notre droit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de droit reconnu à l'océan. Et c'est-à-dire que dans de très nombreux cas, comme je disais juste avant, le droit est en décalage total avec les besoins biologiques de l'océan, avec les besoins des autres êtres vivants. Et certaines pratiques qui sont pourtant incompatibles avec ces besoins sont parfaitement légales. Et c'est là aujourd'hui la ligne rouge, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller plus loin. Quand bien même l'océan en aurait besoin, nous ne pouvons pas aller plus loin que ce que reconnaît la loi. Et donc, eh bien, le chalutage est une pratique légale. Et comment on fait pour attaquer ceux qui détruisent l'océan avec ces pratiques? Eh bien, on ne peut pas, parce que c'est autorisé. Et donc, c'est là l'entrée, pour moi, des droits de la nature est importante, c'est qu'il vient remettre aussi, on va prendre une distance grâce aux droits fondamentaux. On se pose la question de, est-ce que ces pratiques sont compatibles, sur le long terme, avec une relation juste, équitable, non marchand, avec les autres qu'humains? Et replacer justement le droit dans une autre dynamique, celle qui n'est pas de nous humains et dans une vision anthropocentrée, décidons de ce que nous pouvons ou nous ne devons pas faire de l'océan, mais de prendre aussi plus de distance sur ce dont l'océan a véritablement besoin.
Eva Rock.
Checklist avant le départ.
Ok.
Filet de sauvetage.
Ok.
Jerrycan d'eau douce.
Ok.
Corne de brume. Ok. Ne souffle pas dedans. Uniquement en cas de détresse. À Dieu ne plaise.
Grand bien vous fasse.
Larguez les amarres!
Ça va, on n'est pas sourds.
Sur France Inter.
Capolin!
Un sourire grâce au film de Bruno Podalydès, Liberté au Léran, et notre émission se termine. Je voudrais d'abord vous lire un message de Marianne qui nous dit: ce qui est dit dans l'émission est en écho avec un souvenir très fort de ma première plongée en Polynésie. L'eau y était d'une telle pureté qu'elle en était transparente, et du grand bleu a surgi face à moi une raimanta immense, majestueuse, qui paraissait voler. J'en ai pleuré d'une telle beauté sur terre. C'est un peu ce que vous nous racontiez, Simonetta, avec vos cachalots. Et je voudrais qu'on donne la parole à Sylvain qui nous appelle de Lyon. Bonjour Sylvain.
Oui, bonjour Eva, et merci de tenir la boutique pendant l'été.
De rien,
bravo,
c'est un plaisir.
Bravo à vos invités, c'est passionnant. Moi, je suis plongeur depuis ma plus jeune enfance, ma plus tendre enfance, et j'ai eu la chance justement d'aller plonger dans des endroits absolument remarquables partout dans le monde. Et il faut bien être conscient que cet écosystème, en fait, il est vital pour tout le monde, pour la Terre, pour notre oxygène et ainsi de suite. Et par contre, j'ai une grosse inquiétude par rapport à tout ce qui est microplastique, parce que j'ai eu la chance de travailler avec Tara Océan, et la Méditerranée, semble-t-il, a plus de microplastique que de plancton. Donc il faudrait peut-être que, voilà, on s'attelle à tout ça, et puis qu'on arrête de jeter nos plastiques un petit peu de partout, parce que ça a des conséquences catastrophiques, quoi.
Oui, moi j'ai l'impression qu'on répète ça à longueur de journée, Sylvain, et malheureusement, le constat, quand on est dans l'eau, il ne change pas. Je sais pas
non,
comment...
On le voit pas. Le problème, c'est qu'on le voit pas, le microplastique, alors qu'il est là. Et quand j'entendais votre auditrice avant qui parlait de Raymanta, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, et c'est tellement magique que là, on est en train de détruire ça, et c'est une catastrophe. Enfin, il y a plus d'eau que de forêt amazonienne, donc il faut prendre conscience un petit peu de tout ça, quoi.
Et ben on en prend conscience grâce à nos invités aujourd'hui, et puis grâce à vous, avec vos témoignages. Merci infiniment de nous avoir appelés au standard de France Inter. D'ailleurs, Marine Calmet, on a eu aussi un message de Véronique qui nous dit, donc apparemment, elle est professeure, ses élèves de 6e ont gagné le concours du Parlement des enfants. Ils ont proposé une loi pour lutter contre les filets perdus dans les océans, qui sont donc des vrais tueurs en série, nous dit-elle, hein, car ils survivent en moyenne 400 ans, représentent 18 fois le tour de la Terre. On sent qu'ils ont travaillé sur ce sujet. Et elle nous pose la question: à quand des filets biodégradables? Mais ça existait déjà, en fait.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avant l'apparition de l'utilisation du plastique, et ça fait le lien aussi avec votre témoignage précédent, on utilisait du coton pour fabriquer des filets. Donc, évidemment, alors il fallait repriser et réparer ces filets. Et évidemment, ils étaient beaucoup moins solides qu'aujourd'hui. Mais en fait, se poser la question de ce qui nous survit est important. Et quand on prend à la nature, comme quand on fait de la pêche ou même de l'agriculture, se poser la question de ce qu'on rend à la nature ou du moins de ce qu'on laisse derrière nous est quand même essentiel. Et c'est ça, en fait, qui devrait aussi faire être au centre de notre attention dans le droit, de ne pas autoriser des usages, des pratiques qui ne sont pas compatibles sur le long terme avec le bien-être et la santé du vivant.
Est-ce que vous arrivez à vous projeter d'ici 10 ans, Marine Calmet ?
D'ici 10 ans, les droits de la nature sont reconnus en France, dans la Constitution, et nous avons tourné la page de l'Anthropocène.
Et vous aurez une pile de dossiers devant vous à défendre. Et est-ce que vous savez quel est le dossier qui sera au sommet de la pile, d'après vous ?
Je pense que la question de la santé planétaire et de la question des pollutions chimiques, à mon sens, et vu ce qu'on a vécu hier avec la loi du plomb, sera vraiment au sommet de... Parce que, comme tu l'as très bien dit au début, tout ce que nous polluons à terre finit en mer, et que donc prendre conscience qu'il n'y a qu'une seule santé, la santé humaine, la santé des océans et la santé terrestre, toutes ces questions-là seront à mon avis très en haut de la pile, parce qu'on a beaucoup de travail.
Simonetta Grégio, vous arrivez, vous, à vous projeter?
Oui, j'ai écrit hier une lettre pour l'anniversaire de ma nièce, où je lui dis tu ouvriras cette lettre en 2050, j'aurai 90 ans, tu en auras à peine 30, voilà comment était la mer, est-ce que vous avez fait quelque chose entre ça, c'est vraiment le retour vers le passé ou vers le présent. Et je voulais dire, en réponse aussi à notre auditeur de tout à l'heure,
Sylvain,
c'était sur le fait de toucher au portefeuille, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Marine. C'est-à-dire que quand on change son comportement, qu'on mange moins de saloperies, par exemple, on leur donne moins d'argent. On leur donne moins d'argent pour nous empoisonner. C'est quand même du donnant-donnant qui est vachement vertueux. Et ben, il faut faire la même chose. Il faut porter plainte à la Cour européenne, etc. Il faut vraiment avoir des endroits éthiques, juridiques, où s'adresser en tant que citoyen. Est-ce qu'il faut faire maintenant avec la loi du plomb ? On ne va pas se laisser faire, alors que vraiment, c'est du poison.
Simonetta, j'entends votre indignation. Est-ce que vous avez toujours été comme ça dans votre vie ? Ou c'est une indignation qui monte un peu comme un volcan ?
Disons que je vois quand même que ça brûle. On parle de sauver la Terre, on ne va pas sauver la Terre. Ce n'est pas du tout le problème. Est-ce qu'on va réussir à sauver un peu l'espèce humaine ? Parce que l'espèce humaine, c'est ça qui est en danger. La Terre, elle va très bien s'en tirer sans nous. Hein. Les couches biologiques sont là pour nous le dire. Donc nous, quand on aura disparu, en fin de compte, il y aura peut-être les chiens qui auront disparu avec nous. Mais tous les autres, ils seront toujours là, ils feront la fête sans nous.
Est-ce que, vous savez, on termine chaque jour notre émission avec un coup de cœur, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de continuer cette réflexion qu'on a entamée depuis 10h ce matin. Marine Calmet, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous donne envie de nous conseiller, une lecture, un film, une série, un son ?
Moi, j'avais envie de vous parler de l'exposition au Musée National de la Marine de Jean Gomis sur les photos de la mer qu'il a prises, des très très belles
magnifique,
images.
Magnifique, hein. De travailleurs de la mer. Hein.
Exactement, et il est donc jusqu'à la mi-août exposé au Musée National de la Marine. Et en fait, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est ce regard sur les pratiques, les pêches ancestrales, documentées avec un regard pas du tout surplombant, à vue au niveau de la mer et au niveau des humains, ce qui était ces liens ancestraux. Et puis, plus on progresse dans l'exposition, plus on voit arriver des pratiques, pour le coup, qui questionnent à la fois nos relations à l'océan, qui devient un support pour les activités militaires. Il a photographié des sous-marins nucléaires, mais aussi un support de production électrique. Il a des photos extraordinaires des champs d'éoliennes en mer. Et donc, forcément, on voit la relation à l'océan qui se dégrade. Et même la relation entre humains, en fait, qui se dégrade.
On mettra les références de l'exposition, évidemment, sur la page de l'émission via l'application Radio France. Et vous, Simonetta ?
Moi, c'est deux livres, toujours d'Anneli Pons, que j'ai cité tout à l'heure, parce qu'elle est illuminante pour moi. C'est Sa Bible du plastique, parce que ça, il faut le lire, parce qu'elle parle vraiment de ce qu'il faut faire. Et puis, Son grand épuisement, qui est son dernier livre.
Ce sera notre
dit,
sujet.
Oui, on a le droit d'être fatigué, mais oui, on a le droit de se remettre debout et de continuer à lutter.
On en parlera d'ici une dizaine de jours avec elle. Dans ce studio. Je voudrais qu'on finisse avec un message d'Olivier qui nous dit « Je suis en navigation, je vous écoute depuis la mer. Sans vouloir faire mon vieux con, depuis quelques années maintenant, la mer est devenue un lieu de consommation. On n'y vient plus pour la découvrir, mais juste pour tourner une clé et faire démarrer un moteur d'un bateau qu'on va remettre au garage en rentrant. Il y a un gouffre entre les gens qui aiment l'océan et une grande majorité qui ne le considère que comme un lieu à conquérir pour l'exploiter. » Je trouve que ça résume parfaitement notre discussion. Merci infiniment à toutes les deux. Je rappelle les titres de vos livres parus chez Actes le Sud, Marine Calmé, Justice pour l'étoile de mer, et puis Simonetta Greggio, Un été en mer, deux magnifiques livres, toutes les références sont à retrouver évidemment sur la plage de l'émission. Et alors sans elle, pas de cap, à la réalisation Claire Destacan, Anna Massardier, Jessica Bagic, Noélia Filiol et Elina Garcia étaient à la préparation. Et ce matin, à la technique, il y avait Julien Dumont et Anne-Laure Cochet.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.